La Grande-Bretagne maintenant, et une question: comment les Britanniques se préparent à la rigueur économique annoncée le mois dernier par leur Premier ministre David Cameron? Une cure d'austérité sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, hausse d'impôts, baisse drastique des aides sociales et de l'État-providence, 490 000 salariés du secteur public licenciés. Pour les autres, gel des salaires, hausse des cotisations retraite, objectif, réduire le déficit public d'ici à 2015. Christian Roudot, bonsoir.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Vous êtes notre correspondant à Londres. Est-ce que ces coupes budgétaires pourraient faire, vaciller le célèbre stoïcisme anglais? En tout cas, il y a deux jours, Christian, une manifestation d'étudiants à Londres a mal tourné.
Oui, et je peux vous en parler d'autant plus volontiers que j'étais en première ligne mercredi. J'ai vu les manifestants prendre d'assaut la tour Milbank, hein, c'est le bâtiment qui abrite le siège du Parti conservateur, le parti du Premier ministre David Cameron. Et c'est vrai que ces scènes de violence sont devenues rares en Grande-Bretagne. D'ailleurs, clairement, les policiers n'avaient pas anticipé ces incidents. Alors, est-ce que c'est le début de la riposte anti-austérité? Est-ce que la rue britannique est en train de se réveiller? À mon avis, c'est vraiment trop tôt pour le dire, mais tout de même, cette première grosse manifestation anti-rigueur ressemble à un avertissement adressé au gouvernement de coalition. David Cameron avait pu croire que les Britanniques accepteraient ces coupes budgétaires sans broncher. Eh bien, aujourd'hui, rien n'est moins sûr.
Malgré tout, Christian, on a l'impression que les Britanniques semblent plutôt accepter cette cure d'austérité qui leur est imposée.
Alors c'est vrai, les gens se demandent si le gouvernement a raison de couper dans les budgets aussi brutalement, aussi rapidement. N'y a-t-il pas un risque d'étouffer la reprise économique? Quelles seront les conséquences sociales de toutes ces mesures? Mais hormis ces doutes, l'opinion britannique accepte dans son ensemble la nécessité de se serrer la ceinture. Et là, il faut dire que le gouvernement britannique a très bien vendu son plan d'austérité. Allez, donnons 9 sur 10 pour la communication. Je propose d'écouter à ce propos le journaliste politique Joey Jones. Il vient de sortir un livre d'enquête sur la coalition gouvernementale.
L'électorat juge en majorité que c'est la faute du parti travailliste, ce qui n'est pas forcément le cas parce que visiblement tous les pays souffrent à cause de la crise financière, et ils acceptent aussi qu'il faut agir tout de suite et qu'il faut vraiment faire des coupes budgétaires du gouvernement assez radicales. Alors ça veut dire que forcément la communication a réussi. Et que pour le moment, la coalition, les deux partis, les conservateurs et les libéraux-démocrates, réussissent à mener leur argument. La première mesure qui était controversée, c'était d'annoncer que les riches vont perdre l'argent qu'ils touchent pour leurs enfants. Ils ont fait d'abord parce que comme ça, les mesures qui étaient annoncées plus tard, qui touchent surtout aux plus pauvres, n'ont pas paru si injuste, parce qu'ils avaient déjà annoncé le pire pour ce que nous on appelle le middle class, ou les classes moyennes ou riches.
Alors un plan d'austérité inévitable et juste, équitablement réparti, Christian Roudot, est-ce que c'est le point de vue, disons, des plus pauvres en Grande-Bretagne?
Eh bien, pour essayer de répondre à cette question, j'ai fait un sondage express, un micro-trottoir à la sortie d'un job center. C'est l'équivalent britannique de notre pôle emploi. Hier, le gouvernement Cameron a annoncé une vaste réforme du welfare state à l'anglaise. L'idée générale est de pousser les chômeurs à chercher activement un emploi. Il est prévu de couper les indemnités et les allocations à tous ceux qui ne font pas suffisamment d'efforts pour chercher du travail. Et de fait, il y a des familles en Grande-Bretagne où personne ne travaille depuis des générations. Mais en même temps, la réalité actuelle, c'est qu'il y a très peu d'emplois disponibles en Grande-Bretagne. Voilà ce qu'en disent les chômeurs que j'ai rencontrés donc à la sortie de ce job center.
Je veux vraiment travailler. Je n'aime pas venir dans ce bâtiment pour mendier l'argent du gouvernement. Je suis quelqu'un qui veut vraiment travailler. Je veux du boulot.
Ils vont me couper une partie des aides. Je suis au chômage, je ne trouve pas d'emploi. C'est pas de ma faute. Pourquoi je devrais perdre cet argent? Je cherche constamment du travail. Je me suis même remis à étudier. Les plus riches seront moins visés que les pauvres par les coupes. Les pauvres ne pourront plus rien acheter.
Christian, et que dit la fameuse middle class anglaise? Comment vit-elle l'austérité?
Écoutez, il y a une expression qui a fait florès de ce côté-ci de la Manche. On parle beaucoup des squeezed middle class, ces classes moyennes pressées comme des citrons. C'est un enjeu politique important, évidemment. Aucun gouvernement ne veut se mettre les classes moyennes à dos. Mais voilà, la suppression des allocations familiales à partir de certains revenus, la hausse des impôts, l'augmentation des frais d'université, tout ça commence à inquiéter la middle class. Je vous propose d'écouter le point de vue de Phil Evans. Il fait partie de la classe moyenne anglaise. Il est marié, deux enfants et travaille à Oxford comme collecteur de fonds pour une ONG.
Qu'est-ce que je reçois de l'État pour tous mes dépenses, mon investissement? J'ai l'impression que les gens plus pauvres, ils reçoivent beaucoup, ce qui est normal, puisque c'est l'État-providence, et je suis d'accord avec. Mais la classe moyenne, j'ai l'impression qu'on paye de plus en plus pour en recevoir moins en moins. Les frais qu'on paye aux universités vont être beaucoup plus chers d'ici quelques années, par exemple, et ça va beaucoup frapper la classe moyenne. Moi, j'ai peur que mes enfants vont quitter l'école, l'université avec beaucoup plus de dettes que ma génération, et que ce sera une situation normale.
Et puis bien sûr, il y a le spectre du chômage. Phil Evans, que l'on vient d'entendre, a perdu son emploi il y a quelques mois. Heureusement pour lui, il en a retrouvé un aussitôt. Mais du coup, Phil s'inquiète des conséquences des suppressions d'emplois dans le secteur public.
Je m'inquiète surtout au niveau du chômage, parce qu'on a prévu des licenciements assez sévères, surtout dans le gouvernement. On a parlé de 500 000 emplois perdus d'ici 2 ans, et ça va frapper aussi le secteur privé. Même si moi j'ai réussi à trouver un nouveau poste, je crois que ce n'est pas le cas pour la plupart du monde. Le marché de travail en Angleterre est assez flexible, mais de voir tellement de gens qui sont mis au chômage au même moment, ça va avoir des dégâts.
Faut pas oublier que les travaillistes ont été au pouvoir pendant 13 ans, donc ils portent une part de responsabilité dans le déficit budgétaire record du Royaume-Uni, environ 180 milliards d'euros, près de 11% du PIB. Christian Goudeau, quel est l'angle d'attaque du Labour aujourd'hui dirigé par Ed Miliband?
Je dirais qu'il y a une certaine prudence. Les travaillistes acceptent l'idée que les déficits publics doivent être réduits, mais pas de façon aussi brutale, aussi rapide et aussi injuste à leurs yeux. Le Labour accuse les conservateurs de profiter de la situation. La nécessité économique serait un prétexte bien commode. En fait, les Tories, les conservateurs, feraient aujourd'hui ce qu'ils ont toujours voulu faire, à savoir réduire la taille de l'État et de l'État-providence. C'est en tout cas l'opinion de Meg Moon, députée travailliste de Sheffield.
C'est toujours ce que font les conservateurs. Ils n'aiment pas avoir un grand État, ils n'aiment pas tous les choses que nous avons fait pendant les dernières années. Nous avons fait beaucoup plus pour aider les gens avec des enfants, les écoles, l'université, etc., etc. Et c'est pas dans l'idéologie des conservateurs. Quand on vraiment va voir ce que le budget ça va donner. En ce moment, c'est pas tellement clair. Je crois qu'il va avoir des manifestations, mais je suis sûre que ça va pas être comme en France. Mais quand même, les gens ils vont se fâcher quand même.
Mais vous, est-ce que en tant que parti d'opposition, vous allez soutenir ces manifestations?
Enfin, ça c'est toujours un problème parce que avec notre histoire, on ne veut pas être seulement les gens qui crient et qui n'achètent rien. Pour nous, les manifestations dans la rue, ça fait un peu le passé. Pour nous, le plus important est de pouvoir revenir en gouvernement le plus tôt possible.
Et oui, vous l'entendez, ce sont des manifestants qui crient tous ensemble, grève générale. Christian Goudeau, vous avez enregistré ces slogans mercredi dans les rues de Londres lors de la manifestation des étudiants anglais qui appellent à la grève générale, en français dans le texte, hein.
Oui, les manifestants français devraient demander des droits d'auteur. C'est vrai que les dernières grèves et manifestations en France ont été très suivies. Ici, on n'a pas manqué de faire la comparaison entre les deux peuples. D'un côté, les Français qui montent sur les barricades pour s'opposer à ce qui, après tout, était vu ici comme une réformette. Et puis, d'un autre côté, donc, ces Britanniques qui restent stoïques alors que l'on leur impose un plan d'extrême rigueur. Alors, on pourrait en conclure que les Anglais sont soit plus réalistes, soit plus résignés. Ça, c'est affaire d'interprétation. Mais je crois que l'on aurait tort de conclure que l'histoire est terminée, que les Britanniques ont avalé tout cru ce plan d'austérité. En fait, selon le journaliste et auteur Joe Jones, les syndicats attendent que le fruit de la colère soit mûr. Si vous voulez, c'est le jeu du « wait and see ».
Les syndicats aussi voient les sondages. Ils constatent que la majorité des Britanniques accepte l'argument de la coalition, c'est-à-dire qu'il faut agir maintenant, faire des coupes radicales, etc., etc. Alors, si les syndicats, tout de suite, disaient « Oh, c'est inadmissible, c'est injuste, c'est ceci et cela, on va faire des grèves, on va faire des, on va vraiment faire beaucoup de bruit dans le pays », ils peuvent voir que la population n'accepterait pas ça en majorité. Les syndicats, ils jouent un jeu aussi. Ils savent que la réalité ne va pas se sentir avant au moins la deuxième moitié de l'année prochaine, c'est-à-dire 2011. Et ils constatent qu'il vaut mieux attendre. S'ils réagissent tout de suite, ça pourrait être contre-productif pour eux.
Et de fait, une grande journée d'action anti-austérité est déjà au programme en mars prochain en Grande-Bretagne. Donc vous voyez, Pierre, l'austérité et les Britanniques, ça n'est pas une histoire avec un point final, mais plutôt avec trois petits points de suspension.
Oui, l'heure de vérité, ce sera certainement donc en 2011. Christian Oudot, merci, en direct de Londres. Pierre Veille.